L'atelier des médias.
Rien ne vaut une feuille de route qui s'autorise les détours. J'avais prévu de prolonger notre première émission sur l'expérience utilisateur au service des médias en interrogeant des journalistes aux manettes de rédaction en pleine métamorphose. Mais entre-temps, il y a eu le festival de photojournalisme Visa pour l'image. Alors on a tout cassé à l'atelier de notre beau programme en se disant qu'un détour par Perpignan, pourvu qu'il nous raconte de belles et bonnes choses, eh bien ça valait le coup. L'instant décisif, cher au photographe Henri Cartier-Bresson, c'est peut-être ça. Céder à l'appel du moment et à l'évidence de l'inattendu. Alors l'atelier des médias, c'est parti, je suis Julien Lebotte et je suis entouré de toute l'équipe, Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche et Simon De Creuse à la réalisation.
L'atelier des médias, le magazine du numérique et de l'innovation.
Le photojournalisme a-t-il définitivement pris le virage du numérique ? De Fatima's Drawing, dernier prix de l'information numérique, au travail fascinant du photographe américain David Gutenfelder, le photojournalisme continue de se transformer. Ce sera là notre dossier de la semaine que l'on retrouvera en seconde partie d'émission. Dans quelques minutes, nous repartirons avec Mathias Virili aux ateliers de couture qui se sont tenus cet été dans le Lot et Garonne pour parler de sécurité informatique avec Christopher Talib de la Quadrature du Net. Mais tout de suite, on appelle Laurence Ndong qui fait partie du collectif gabonais « Ça suffit comme ça ».
Allô ?
Bonjour Laurence Ndong.
Bonjour.
Alors, vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse, vous êtes écrivaine également, puisque vous avez écrit « Gabon, pourquoi j'accuse » aux éditions de L'Harmattan. Et là, je vous appelle dans le cadre de votre engagement au sein du collectif gabonais « Ça suffit comme ça ». Alors, en un mot, « Ça suffit comme ça », qu'est-ce que c'est, Laurence Ndong ?
« Ça suffit comme ça » est un mouvement citoyen qui milite pour l'alternance démocratique au pouvoir et pour le respect des libertés fondamentales des citoyens.
Alors vous faites...
Nous luttons surtout contre les successions dynastiques qu'on a voulu imposer en Afrique, où lorsqu'un chef d'État a mis 40 ans au pouvoir, il est remplacé par son fils. Pour nous, ce n'est pas de la démocratie et nous voulons... que le droit que tous les peuples ont de choisir leurs dirigeants soit respecté.
Oui, alors justement, vous faites également partie de la coalition Tournons la Page qui milite précisément pour l'alternance politique et pas seulement au Gabon. Pouvez-vous rapidement nous en dire plus sur Tournons la Page ?
Alors, Tournons la Page est une coalition internationale qui regroupe des mouvements citoyens. Donc, les plus célèbres sont le Ballet citoyen du Burkina Faso qui a contribué à la chute de Monsieur Compaoré. Il y a le mouvement citoyen Il y en a marre au Sénégal qui a aussi contribué à ce que Monsieur Macky Sall arrive au pouvoir, mais en fait que l'alternance se fasse parce que dans le cas de Tournons la Page de Ça suffit comme ça, nous ne sommes pas forcément pour un candidat. Notre problème, c'est l'alternance au pouvoir.
Alors justement, revenons sur la façon dont s'est déroulé le scrutin. On sait que la société civile au Gabon s'est fortement impliquée. Je sais aussi que le collectif Ça suffit comme ça a reçu une aide justement du collectif Tournons la Page afin de former ce qu'on a appelé des scrutateurs, c'est-à-dire des personnes formées pour être présentes dans les bureaux de vote. Pouvez-vous rapidement nous expliquer comment ça s'est passé ?
Alors oui, tournons la page évidemment, puisque nous travaillons pour l'alternance, il faut se donner les moyens d'arriver à cette alternance et pour y arriver, il faut sécuriser le vote des électeurs. Et la meilleure, on n'a pas pu au Gabon obtenir une biométrie comme on l'espérait. Ils ont fait semblant de faire de la biométrie, c'est juste des fichiers informatisés, parce qu'une vraie biométrie devait aller jusqu'à l'identification de l'électeur. C'est-à-dire que sur la carte d'électeur, il devait y avoir un code barre qui est scanné de sorte que l'électeur ne puisse pas aller revoter dans un autre bureau. Or, pour éviter les votes multiples. Or, cela n'a pas été fait. Les cartes d'électeurs que nous avons sont simplement du papier. Hein. Et donc, un électeur peut effacer l'encre sur son doigt. Il peut être inscrit dans plusieurs bureaux. D'ailleurs, on a vu que la liste électorale au Gabon était tronquée, qu'elle a été grossie de plus de 30%. On a vu dans certains villages, d'après le recensement de la population de 2013, qu'il y avait 43 habitants. Et par contre, pour l'élection présidentielle, il y avait 792 inscrits. Donc, il fallait absolument sécuriser le vote, mais pour ça, il fallait des observateurs. Et donc, Tournons la page a aidé le mouvement, ça suffit comme ça, à former donc des scrutateurs qui sont allés dans les bureaux de vote pour observer comment ça se passait. Et en plus, au Gabon, le code électoral dit que le dépouillement est public. Eh bien, ils ont assisté au dépouillement, au décompte d'ivoire. Ils ont vu comment ça a été consigné dans les procès-verbaux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir en place refuse le comptage, le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote, parce qu'ils n'ont pas pu tricher à la base. Mmh. Ils ont triché au moment de la centralisation des résultats.
Alors, continuons de parler justement de l'engagement de la société civile, puisqu'il y a également eu d'autres initiatives. Je pense à l'application mobile Regab, qui a été développée par un Québécois pour toute personne finalement qui souhaitait mettre en ligne les résultats du 27 août dernier. Pouvez-vous aussi nous raconter un petit peu cette histoire de Regab?
Oui, en fait, Regab a été mise, c'est une application qui a été mise en place par un Gabonais résident au Québec et pas un Québécois. Donc, le mouvement Ça suffit comme ça a aussi organisé une formation pour l'utilisation de Regab.
Et alors, Regab, comment ça marche?
Puisque le décompte des voix est en public, donc on assistait au dépouillement et les résultats obtenus pouvaient être enregistrés directement sur Regab et on pouvait photographier le procès verbal et le mettre aussi sur Regab. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement gabonais ayant engagé des hackers, l'application Regab a été piratée pour qu'elle soit rendue indisponible au jour du vote.
Alors, il n'y a pas eu que Regab qui a été piraté, dites-vous, puisqu'il y a eu, je crois, des sites comme Info241 ou Gabon Media Time.
Oui, parce que si vous voulez, aujourd'hui, la fraude électorale passe difficilement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde médiatisé. Les fraudes qui pouvaient s'opérer en 95 et même en 2005-2009 auraient du mal à passer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous des smartphones. Nous pouvons prendre des procès-verbaux en photo. Nous pouvons les envoyer tout de suite. On peut avoir des résultats en live. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il fallait que tout soit centralisé pour qu'on ait les premiers résultats. Or, avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, les résultats étaient disponibles. Donc, il fallait absolument empêcher cette divulgation des résultats en bloquant les réseaux sociaux, en bloquant les sites Internet. Et même, ils sont allés plus loin après l'élection. Ils ont simplement coupé Internet dans le pays.
Couper l'Internet, titré l'autre jour Libération, réflexe d'autocrate. Vous en pensez quoi?
C'est tout à fait cela. Je dis, quand on n'a rien à cacher, pourquoi couper Internet? Internet, aujourd'hui, nous ouvre sur le monde. Et le monde s'ouvre à nous par Internet. Donc couper Internet signifie simplement qu'on a des choses à cacher. Ils n'arriveront pas à cacher l'information.
Merci Laurence Ndong. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse et l'auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Merci Laurence.
Merci à vous pour cette interview.
Pour retrouver des infos sur le collectif Tournons la page, son kit de mobilisation et son appel, il suffit de taper dans son navigateur tournonslapage.com.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? On commence avec Le Guardian qui vient à son tour de se lancer dans la course au chatbot. Pour mémoire, un chatbot, c'est un programme informatique capable de répondre aux questions des internautes. En l'occurrence, les internautes pourront discuter avec le robot du Guardian sur Messenger pour se fabriquer leur information à la carte. Pour l'heure, on le sent bien, ces services restent exploratoires, mais ils montrent bien ce souci d'amélioration du service rendu au lecteur. Ils montrent bien aussi cette course qui est lancée par les médias pour tenter d'aller chercher les internautes là où ils passent le plus clair de leur temps, de moins en moins sur le web et de plus en plus sur leur messagerie. On continue avec la visite de Mark Zuckerberg en Afrique la semaine dernière. Une visite qui continue de susciter bien des interrogations sur les intentions du fondateur de Facebook. Officiellement, un voyage destiné à prendre le pouls d'un continent faisant pleinement partie de la révolution numérique. Mais surtout, une visite pour faire le point sur le développement du service Free Basics. Alors Free Basics, souvenez-vous, c'est un service gratuit d'accès à Internet lancé en 2014 dans une vingtaine de pays sur le continent africain. Sur le papier, des millions de personnes sont enfin connectées sans avoir à sortir le moindre copec. Mais en réalité, cela ressemble bien plus à une opération commerciale. Pourquoi? Parce que dans chaque pays où FreeBSX est implanté, ce sont Facebook et les opérateurs téléphoniques qui déterminent la liste des sites accessibles gratuitement. Pour surfer sur le reste de la toile, il faut tout simplement payer. Autrement dit, FreeBSX est une atteinte à la neutralité du net qui veut que chacun puisse avoir accès, et ce dans les mêmes conditions, à l'ensemble des sites. Un enjeu majeur qui n'a malheureusement pas été abordé lors de cette visite. l'agence publique numérique d'Île-de-France, la Fonderie, a lancé cette semaine AfriqueNumérique.fr. AfriqueNumérique.fr, c'est une carte collaborative qui permet d'identifier les communautés, les écoles numériques ou encore les incubateurs installés dans 19 pays de la zone subsaharienne francophone. C'est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez y contribuer pour vous faire connaître, mais vous pouvez aussi récupérer les données pour mieux les réutiliser, puisque les données sont mises à la disposition des internautes. Bref, allez y faire un tour si ça vous intéresse, afriquenumérique.fr. Enfin, l'Atelier des médias souhaite la bienvenue à Kounafouni Rapou, la version malienne du JT Rappé. Cette initiative se double d'ailleurs d'un débat rappé qui mérite le détour. C'est sur kounafouni.com, sur YouTube et sur SoundCloud.
Le vendeur en plein cœur de la capitale, on parlera également du chômage au Mali, bas sur la santé, de la paix. Enfin, pour finir sur les réseaux sociaux, ici au Maliba, présentation ZK, the best pop son de son abiga. Restez branchés sur kounafouni.com. Pour ceux qui ne comprennent pas français, attendez, pop son est là, il vous dira en bamana.
Les liens, les sites, les adresses, c'est toujours galère à la radio, je vous rassure. Vous pouvez les retrouver en direct sur le compte Twitter de l'Atelier des médias.
L'Atelier des médias, informons, inventons, discutons.
La sécurité informatique, c'est tout sauf une affaire simple. Que l'on soit blogueur, journaliste ou simple lecteur, il y a tout un tas de trucs à bien comprendre. Notre reporter Mathias Virilli, lors de son passage aux ateliers de couture, a essayé d'en savoir plus.
Je m'appelle Christopher Talib, je suis chargé de campagne à la Quadrature du Net, une association française de défense des droits et des libertés dans l'espace numérique.
Tu animes ici à Couture, mais aussi à Paris et autrefois à Bruxelles, des crypto-parties. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Un crypto-party, c'est un atelier citoyen, collaboratif, de présentation et d'initiation aux outils numériques et particulièrement axé vie privée et protection de la vie privée.
Pourquoi protéger sa vie privée aujourd'hui ?
Sur Internet, on est plus ou moins traqué d'à peu près partout. On est surveillé, que ce soit par un pouvoir politique ou par les sociétés de marketing. Donc la question de se demander comment protéger nos communications est essentielle, et aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a quelques années.
Pourquoi ça ?
Les révélations de Snowden, par exemple, nous ont montré que les États-Unis et d'autres pays aussi font de la surveillance de masse des citoyens pour des raisons politiques. Pour ces raisons-là, un certain nombre de personnes peuvent se sentir visées et ne pas vouloir être surveillées. Et même, au-delà de ça, tout le monde a le droit à avoir la protection de sa vie privée et de son intimité. Et c'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça qu'on en fait.
Par exemple, Snowden, pour ceux qui ont vu Citizen Four, quand il a essayé de contacter les journalistes, il a essayé de savoir « Bonjour, j'ai des choses, est-ce qu'on peut échanger de manière chiffrée ?» Bah, un certain nombre de journalistes n'avaient pas répondu parce qu'ils, un, ils savaient pas comment chiffrer, et deux, ont pris ça pour un truc intéressant. Il n'y a que Laura Poitras qui avait réussi à convaincre ensuite Glenn Greenwald pour chiffrer, pour vraiment s'intéresser à ce sujet-là. Et c'est dit dans Citizen Force, on est passé à peu que les révélations de Snowden ne sortent pas.
Ces ateliers sont des ateliers pratiques de prise en main d'outils ou au moins d'informations sur ces outils-là. Concrètement, ça veut dire quoi se protéger en ligne aujourd'hui ? C'est quoi, quelles sont les bonnes pratiques et les outils à mettre en œuvre ?
Les bonnes pratiques de base, c'est déjà avoir un mot de passe différent pour chaque site web. C'est très facile à faire avec un gestionnaire de mots de passe. Aussi, naviguer de façon privée avec HTTPS dans l'adresse de barre, ça c'est déjà une bonne chose aussi. Réfléchir à ce qu'on poste. Qu'est-ce qu'on poste ? Quand est-ce qu'on le poste ? La géolocalisation des téléphones portables, c'est une question aussi. Oui, et aussi évidemment, au mieux et au plus souvent possible, chiffrer les communications, c'est-à-dire ne les rendre lisibles que par son destinataire. Parce qu'autrement, les communications, si elles ne sont pas chiffrées, elles sont ce qu'on dit en clair sur Internet, c'est-à-dire que n'importe qui intercepte la communication peut lire la communication.
Aujourd'hui, on utilise un ordinateur, peut-être une tablette, un smartphone. Ça veut dire que pour chaque outil, il faut mettre en place de nouveaux outils de protection de sa vie privée.
Souvent, l'idéal, c'est plutôt de se concentrer sur l'outil principal et que l'outil secondaire soit aussi bien protégé. La réflexion a toujours été aussi être de savoir qu'est-ce qu'on protège et comment on le protège. De base, beaucoup de gens n'aiment pas la surveillance privée, la surveillance du marketing, les publicités, les spams, ça fatigue tout le monde, et moi en premier. Bloquer les publicités, c'est déjà un bon premier pas.
Comment expliques-tu dans ce cas-là que autant de gens mettent leurs données personnelles sur Facebook, qu'ils publient abondamment et parfois avec des paramétrages qui laissent ces contenus accessibles en public ? Comment est-ce que tu expliques ce fossé entre à la fois une envie de voir sa vie personnelle protégée et à la fois voilà, cette exhibition en ligne ?
au final, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Le simple fait, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. Et par exemple, publier sa vie privée en ligne, c'est un droit. Mais il faut savoir que ça a des conséquences aussi, ça peut avoir des conséquences. De la même manière que ne pas utiliser aucun de ces produits ou de ces manières de communiquer nous rend un peu en dehors de la société actuelle, puisque tout le monde est souvent sur Facebook, tout le monde est sur WhatsApp, etc., etc. Donc la question principale est de pouvoir faire la part des choses et savoir ce qu'on fait, comment on fait, et pouvoir se dire que quand on veut une communication privée, quand on veut garder les choses privées, particulièrement quand on est journaliste, activiste, patron d'une grande entreprise, etc., de savoir ce qu'on fait, tout simplement.
Excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es venu à cet atelier Crypto Party ce matin à Couture?
Alors je suis venue parce que j'ai beaucoup aimé le documentaire Citizen 4, et puis l'année prochaine je vais devenir journaliste, donc tout ça m'intéresse en fait, parce que évidemment que quand on va réaliser des enquêtes, c'est important de ne pas se repérer. Et là, le fait de pouvoir vraiment poser des questions, toutes les questions qu'on veut, c'est génial.
Est-ce qu'on tombe pas vite un peu dans la paranoïa, notamment pour tout ce qu'on entend autour des journalistes qui doivent se protéger, chiffrer leurs mails et que sais-je encore? Enfin, est-ce que, par exemple, dans le cas des journalistes, est-ce qu'on tombe pas dans la paranoïa?
Un journaliste, c'est difficile, parce que chaque manière de se protéger sera différente par rapport au cas du journaliste. Il n'y a pas une manière de faire. Et effectivement, on peut être prompt à tomber un peu dans la paranoïa, et c'est un danger. L'intérêt est de pouvoir rester le moins paranoïaque possible et pouvoir rationaliser, savoir exactement c'est quoi le problème, se dire bon voilà, ça c'est problématique, mais on va pas le faire, et on va pouvoir réfléchir sur les risques qu'on a, qu'est-ce qu'on veut protéger, comment on va le protéger, comment cette chose pourrait être attrapée, et qu'est-ce qui va se passer si cette chose se fait attraper. Avec ces questions-là, on peut déjà mieux réfléchir sur ce qu'on veut faire et mieux se protéger, surtout en garder particulièrement les pieds sur terre.
Bonjour monsieur, vous avez assisté à la crypto party qui a eu lieu ce matin au Festival Couture. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes venu ici?
Parce que l'évolution d'Internet aujourd'hui, autant des messageries que des sites, expose les citoyens à des tas de menaces, des tas d'indiscrétions. Chaque fois que je peux trouver l'occasion d'en apprendre plus sur les façons de se protéger, j'en profite.
Vous faites quoi du coup pour votre protection en ligne?
D'abord, j'ai une navigation saine, j'ai une hygiène de navigation. J'utilise un ordinateur équipé d'un système libre, Linux. Il m'arrive d'utiliser du chiffrage de messages, mais plutôt dans un aspect ludique et de connaissance du système. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Avoir des mots de passe complexes. Ne jamais utiliser mon mot de passe et mon adresse mail pour me connecter à un site internet. Et j'utilise aussi un gestionnaire de mots de passe qui me permet d'avoir justement des mots de passe multiples avec une composition aléatoire, c'est-à-dire qui répondent à qui sont le mot de passe fort.
Bonjour, j'ai vu que tu participais à l'atelier des crypto-parties ce matin à Couture. Est-ce que tu peux me dire ce que tu y as appris?
Ah, je suis venue à l'atelier crypto-parties pour prendre des infos sur l'utilisation du web, la façon dont on peut ou pas être surveillé, la façon surtout dont on peut protéger nos sources. Et voilà, cet atelier m'apporte quelques réponses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne donne pas vraiment une réponse et une recette précise, ce qui nous oblige, nous, après, à aller chercher des infos ailleurs. Mais en tout cas, ça sensibilise sur l'Internet qu'on utilise tous les jours et finalement qu'on utilise mal parce qu'on manque d'informations.
Est-ce que tu étais venu avec des questions particulières aujourd'hui, ou est-ce que peut-être tu es ressorti avec des outils que tu comptes mettre en place désormais?
Les questions que j'avais en arrivant, c'était en gros comment sécuriser mes mails, comment faire du chat sécurisé ou sécuriser mes SMS pour que ce soit plus difficile à intercepter. J'en ressors avec quelques outils, pas une réponse universelle.
Ça te paraît compliqué aujourd'hui de te protéger?
Ça me paraît compliqué aujourd'hui de me protéger. Ce qui me paraît en fait bizarre, c'est que soit il faut être très basse technologie, low-tech, c'est-à-dire utiliser encore des vieux téléphones portables avec des cartes SIM qu'on échange, ou alors... limite de vraiment voir les gens en vrai, ou alors d'être très très fort en informatique. J'ai l'impression que le milieu est assez compliqué à gérer, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'explore pour plus tard.
Merci beaucoup.
Voilà, je t'en prie, merci à toi.
Les outils et les bonnes pratiques collectées par Mathias Virilli sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. Moi, je vous dis à dans 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
Allez, à tout à l'heure.
L'atelier des médias.
Un photographe, c'est un œil et un cœur. Et ce qu'il y a entre son œil et son cœur, c'est
un outil. Ça peut être un smartphone, ça peut être une chambre, ça peut être un appareil professionnel, ça peut être un compact, ça peut être... Seul l'œil compte.
Cet homme pour qui seul l'œil compte, c'est Jean-François Leroy. Jean-François Leroy est fondateur et directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'image qui réunit chaque année, à Perpignan, photoreporters, professionnels de l'information et amateurs de photographie. Et comme chaque année, le festival organise en parallèle des expositions une remise de prix qui récompense les photographes dont le travail, mais surtout le regard, ont pu marquer le jury. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on ne parle plus du prix du web documentaire, mais du prix de l'information numérique. Un reportage de Manon Mella.
Au départ, quand on a créé ce prix avec France 24 et RFI, on appelait ça le prix du webdoc. Et donc pour nous, le prix du webdoc devait automatiquement, obligatoirement, impliquer une notion d'interactivité. Et puis on s'est rendu compte que ce format webdoc est de plus en plus difficile parce que ça coûte une fortune à réaliser, une fortune. Donc on a dû évoluer. Et on a abandonné le principe d'interactivité. On accepte aujourd'hui des propositions linéaires. Donc on a reçu beaucoup de dossiers. On en a sélectionné 5. Le lauréat s'appelle Magnus Wenman. C'est un photographe qui travaille pour un journal suédois, Aftonbladet. Et il a suivi le chemin d'une petite Syrienne qui rêve de paix. C'est quelque part très bouleversant, mais c'est aussi... un peu onirique, un peu poétique, et il y a beaucoup de douceur dans ces images. Le visa, alors moi, pour tout vous dire, on a changé de titre très vite. Je suis pas encore convaincu par le visa d'or de l'information numérique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les nouveaux médias, avec tous les nouveaux outils qui sont à notre disposition, il fallait faire évoluer, oublier l'interactivité. Et être plus ouvert à différents styles d'écriture. Alors, nouvelles écritures, ça allait pas parce que c'était trop restrictif. Donc, on a appelé ça visa d'or de l'information numérique, ce qui nous permet d'y mettre beaucoup de choses très variées. Bon, ben, ce prix va trouver sa place, grandir encore, et on va le continuer de nombreuses années.
Le visa d'or de l'information numérique. Prix soutenu par France Média Monde, Radio France et France Télévisions. Le jury était composé de Christophe Champin de France Média Monde, Pascal Delannoy de France Info, Olivier Laurent de Timeline Box et Louis Villers de webdocu.fr. Pour remettre ce prix, j'appelle Samuel Wollendorf, président de ce jury, et Mathieu Mabin, grand reporter à France 24.
Oui, bonsoir. Le jury s'est réuni la semaine dernière avec l'idée qu'il fallait faire évoluer le prix qui était anciennement du webdoc pour proposer aussi des formes plus courtes, pourquoi pas linéaires, mais en tout cas dont les photographes de plus en plus se saisissent. Et donc c'était ça qu'on avait envie d'essayer de continuer à suivre et de ne pas se cantonner à la question de l'interactivité dans laquelle on a pu s'engager les dernières années. Et puis, évidemment, surtout, on a décidé d'attribuer le prix à Magnus Wenman pour son travail Les larmes de Fatima Stills. Fatima's Drawing, sorry, je n'ai pas le texte. Mais surtout, ce qui nous a beaucoup plu, c'était la façon dont il a d'abord traité la question de l'exil des migrants dont on a été tellement abreuvé d'images, et il a décidé de le traiter de façon très différente par la photographie d'abord et puis avec un travail complémentaire documentaire qui est très différent et qui vient en complément de son écriture photographique. Et c'est dans ce type de voix qu'on imagine que les photographes ont vraiment des choses à dire et à jouer aujourd'hui. Donc encore une fois, félicitations Magnus.
Magnus Wenman de Aftonbladet en Suède. Bravo Magnus.
Une fois, j'ai rêvé que je tombais d'un bateau. Puis je me suis réveillée. J'avais très peur. Après, je n'arrivais plus à dormir.
Bonjour, Magnus Wenman. Qu'est-ce que c'est, Fatima's Drawings?
I was working with J'ai travaillé sur la crise des réfugiés tout au long de l'année dernière. Je me suis rendu dans plusieurs pays européens pour observer la situation de ces enfants qui fuient la Syrie. Cependant, je souhaitais également m'intéresser à l'histoire d'un enfant qui était allé en Suède, quelqu'un qui était venu s'installer dans mon pays. Et donc, le reportage que j'ai réalisé sur Fatima repose entièrement sur les souvenirs de Fatima, sur sa propre expérience, car je ne souhaitais pas réaliser un documentaire qui se basait sur des faits concrets, sur le récit des adultes. Je souhaitais avoir l'expérience d'un enfant.
Quel âge elle a, Fatima, et quelle est son histoire? Comment vous l'avez rencontrée?
Fatima est âgée de 9 ans. Et à l'époque où ce documentaire a été réalisé, cela faisait un an plus ou moins qu'elle était en Suède. Elle est originaire de la ville d'Idlib en Syrie et elle a fui avec sa famille, ses parents et ses deux frères. Ils se sont d'abord rendus en Libye où ils ont passé un an ou deux ans. Et par la suite, ils ont décidé de se rendre en Europe. C'était un périple, bien entendu, très difficile, le périple que doivent affronter tous ces enfants et toutes ces familles qui fuient, car ils ont dû embarquer à bord d'une embarcation très précaire pour se rendre en Italie. Et comme vous pouvez le voir dans le film, cette petite fille a vu des choses que aucun enfant ne devrait jamais voir. Mais désormais, elle est en Suède et j'espère, je pense, qu'un bel avenir s'offre à elle.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire à travers un projet vidéo et non pas à travers un projet photo ?
Tout simplement puisque c'était la meilleure manière de raconter cette histoire. Je n'aurais pas pu la raconter avec des photographies figées. Et cela va de même pour l'histoire que j'ai racontée sur ces enfants migrants que j'ai pris en photo dormant en Europe. Donc je pense que vous devez choisir le meilleur médium pour l'histoire que vous souhaitez raconter.
Et comment est construit le récit dans Fatima's Drawings ?
À vrai dire, je n'avais pas tout prévu dès le départ. Tout cela s'est fait au fur et à mesure, selon ce que me disait Fatima, selon les dessins qu'elle souhaitait partager avec moi.
Et Fatima, alors, est-ce qu'elle a vu la vidéo et qu'est-ce qu'elle en a pensé?
Bien entendu, elle a vu cette vidéo et je crois qu'elle en est très fière. Lorsqu'elle est retournée à l'école, quelques jours après, de nombreux de ses amis l'avaient également vue. Donc elle est vraiment très fière. Et d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours seulement et elle est très contente que cette vidéo soit projetée en Europe et dans le reste du monde.
Elle est contente d'avoir vu ses dessins bouger?
La première fois que je lui ai dit que ce reportage allait être diffusé sur le site internet de mon journal, elle était un petit peu déçue, même si c'est l'un des plus grands journaux de Scandinavie et même d'Europe. Elle était triste car cela n'allait pas être montré à la télévision, or ils n'ont pas d'ordinateur à la maison. Mais aujourd'hui, cela a également été diffusé à la télévision, donc elle est très contente. Pour ce qui est de l'animation des dessins, elle en était également très ravie, mais de toute façon, je l'avais prévenue dès le départ.
Est-ce que dès le départ, vous vouliez que ce soit un projet numérique?
Je travaille pour un journal qui publie principalement sur Internet, donc pour moi, il était normal d'utiliser ce média-là. Je pense que c'est une formidable manière de travailler aujourd'hui, car vous n'êtes pas limité. Vous pouvez ajouter du son, vous pouvez utiliser des images télévisées, de la réalité virtuelle, il n'y a aucune limite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le web.
L'Atelier des médias, le magazine du numérique et de l'innovation.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Tell me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Bonjour.
Bonjour Manon.
Bonjour Julien.
Alors tu es allée sur place à Perpignan. Peux-tu nous rappeler rapidement comment ça marche ce festival ?
Visa pour l'image, c'est un festival international qui réunit les plus grands photojournalistes du monde. Cette année, c'est donc la 28e édition de cet événement. Visa pour l'image, c'est 22 expositions photo réparties sur 7 endroits différents, une église, une chapelle, un hôtel ou encore un ancien couvent. Visa pour l'image, c'est 2 semaines de déambulation au milieu de clichés qui font état d'un monde bien tourmenté. Drame des réfugiés, ravage du virus Zika, conflit au Sud-Soudan, fléau du Paco, une drogue qui fait fureur chez les jeunes en Amérique du Sud. Et puis Visa pour l'image, ce sont des soirées de projection qu'il ne faut pas louper chaque soir au Campo Santo. Et puis aller à Visa pour l'image, c'est aussi se perdre dans les petites ruelles de Perpignan, sans oublier de s'arrêter boire un verre au Café de la Poste.
Au milieu de toutes ces expositions, tu as fait une belle rencontre.
Oui, je me baladais du côté du couvent des Minimes, là où sont exposées la majeure partie des photos, et puis je suis arrivée dans un couloir. Et dans ce couloir, il n'y avait que des photos carrées. Elles avaient vraiment quelque chose de différent. Alors je me suis documentée et j'ai appris que ces photos avaient été prises avec un smartphone et qu'elles avaient été postées sur Instagram, un réseau social de partage d'images, par un photojournaliste qui s'appelle David Gutenfelder.
Et qui est David Gutenfelder ?
C'est un photographe qui fait partie des rares à avoir pu se rendre régulièrement en Corée du Nord. Et ça, forcément, ça attire la curiosité.
I had had some experience.
Donc j'ai commencé à travailler en Corée du Nord assez tôt. La première fois que je m'y suis rendue, c'était en 2000 à l'occasion de la visite de la secrétaire d'État Madeleine Albright en Corée du Nord. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point ce pays était surréel et incroyable, et en même temps à quel point c'était un projet de société fascinant et important. Et donc à partir de là, j'y suis retournée plusieurs fois et c'est devenu un peu une obsession photographique. En 2011, Associated Press a commencé des négociations en Corée du Nord pour ouvrir un bureau sur place. Et en raison de mon expérience dans ce pays, on m'a demandé de participer à ces négociations qui ont duré un an. Et pendant toute cette année, j'ai pris des photos. Et en 2012, quand le bureau a été ouvert à Pyongyang, j'ai demandé à être le photographe désigné de Associated Press. Et donc, je me suis rendue de façon mensuelle entre 2012 et 2015.
David, quand on travaille dans un pays comme la Corée du Nord et qu'on est photographe, est-ce qu'on se sent libre de regarder le pays et de raconter le pays tel qu'il l'est ?
Well, it's certainly a different place than working in most.
Donc évidemment, c'est un environnement de travail extrêmement différent à celui dans d'autres pays. Tout est extrêmement contrôlé, on ne se promène pas où on veut, on est toujours accompagné par un guide qui à la fois est un facilitateur, un intermédiaire pour interagir, mais en même temps qui est un peu votre babysitter et qui contrôle ce que vous faites. Et c'est vraiment un jeu du chat et de la souris continuel pour essayer de déceler les moments de réalité dans ce qu'on vous présente. Et mon rôle pour moi, c'était d'interpréter cette réalité, d'essayer de faire le partage du vrai et du faux. Et mon ambition, qui peut sembler peut-être un peu modeste, c'était de trouver les moments, le plus de moments possibles de candeur et d'authenticité qui représentent la vie des gens en Corée du Nord. Et j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir travailler à l'intérieur du système, à défier le système et à réellement montrer la réalité de la vie en Corée du Nord.
Alors, depuis 2013, Kim Jong-un autorise les visiteurs à conserver leur smartphone et à posséder une connexion 3G. Ça doit être assez étrange d'être connecté à Internet dans un tel pays.
Yeah, this is a place that has almost never been photographed by outsiders.
Alors, la Corée du Nord est un pays qui, jusque-là, n'avait jamais été photographié par quelqu'un de l'extérieur. C'est un pays extrêmement isolé et peu connu, justement parce qu'on n'avait pas d'image. Et moi, mon espoir, c'était de donner une fenêtre sur la vie en Corée du Nord. Et évidemment, cet accès à Internet et l'utilisation des médias sociaux qui a été tout à coup autorisé a démultiplié l'effet que pouvaient avoir ces photographies. Et donc, le jour où cette autorisation a été mise en œuvre. J'étais sur Instagram, sur Twitter, sur Periscope pour poster des vidéos, sur Foursquare, je faisais des avis sur les restaurants et j'étais en train de nommer des rues, placer des repères sur Google Maps parce que c'était une carte complètement vide, complètement blanche. Et c'est extrêmement rare de se retrouver dans une partie du monde dont on n'a pas de cartographie, où la carte est complètement blanche. Et j'avais vraiment ce sentiment d'être un explorateur et en ayant la possibilité de vivre, de travailler et de réagir comme je le ferais dans un autre pays, en fait.
C'est donc à partir de 2013 que vous avez commencé à être connu du grand public, puisque vous avez donc ouvert un compte Instagram après avoir passé 20 ans à utiliser les circuits traditionnels pour publier vos photos. Et ici, à Visa pour l'image, l'exposition qui est consacrée à votre travail est composée donc en partie de vos photos Instagram. Et je crois d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais que vous êtes le seul à offrir aux visiteurs une exposition avec des photos au format carré. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer sur ce réseau social?
Quand j'ai commencé à utiliser Instagram, c'était parce que je prenais des photos avec mon smartphone et je n'avais pas de mon smartphone, je l'avais pour prendre des photos et pas nécessairement pour utiliser le réseau social en lui-même. L'intérêt du téléphone en tant qu'appareil photo, c'est que c'est petit, vous l'avez dans la poche, c'est léger et c'est pas intimidant. C'est facile de prendre des photos et tout le monde se sert de son téléphone portable pour prendre des photos, même en Corée du Nord. Et on va prendre des photos de sujets différents, d'objets différents. Quand on a un appareil photo et que l'on fait des photos pour une agence de presse, on ne prend pas ces petits détails de la vie quotidienne, comme ce que vous avez mangé la veille au soir ou un téléphone posé sur une table. Ce ne sont pas des photos qui vont faire la une, qui sont considérées comme des photos d'information, mais pour moi, elles sont tout aussi importantes, notamment quand on couvre un pays qui est aussi inconnu, tous les détails comptent et contribuent à un puzzle qui donne une image d'un pays qu'on ne connaît pas du tout. Alors au départ, Instagram, c'était plutôt un outil créatif que j'utilisais pour mettre ce type de photos qui n'étaient pas des photos de presse. Et ensuite, je me suis rendu compte de l'importance de ce média. Quand on regarde la circulation des journaux dans lesquels je publiais mes photos, on était à 90 000 tirages, alors que là, j'ai 1 million de followers, donc des gens qui voient mes photos, mais également avec qui je communique. Ils sont intéressés par mes photos, ils commentent, je leur réponds. Donc c'est une relation beaucoup plus dynamique avec le lecteur.
Est-ce que Instagram redéfinit les règles de la photographie et comment?
I think first of all, there was a language that was emerging on Instagram.
Tout un langage photographique a émergé sur Instagram et aujourd'hui il y a 500 000 utilisateurs et les photojournalistes ou les photographes qui font de la photographie documentaire ne sont qu'une minorité de ces personnes qui postent des photos quotidiennement. Et le langage qui a émergé de toutes ces photos de non-professionnels était extrêmement différent des codes de la profession. Et moi je ne voulais pas être un spectateur sur le bas-côté de cette tendance émergente et je voulais participer à façonner, à guider l'émergence de ce nouveau langage photographique et parce que je crois réellement que les photojournalistes font un des travaux les plus importants et le travail le plus important dans le domaine de la photographie et il me semble que l'on doit jouer un rôle dans la définition de l'avenir des tendances qui se dessinent dans ce domaine et c'est pour ça que j'encourage toujours mes collègues à être sur Instagram, sur les réseaux sociaux pour participer à ce mouvement. Et sur les médias sociaux, la photographie est souvent une photographie très personnelle de la mise en scène de la vie quotidienne. Et donc moi-même, les photos que je mets sur Instagram combinent les deux, combinent cet aspect très personnel et cet aspect information. Et les réseaux sociaux sont également très importants dans le business model de la photographie aujourd'hui, dans notre carrière en tant que photographe. C'est une excellente plateforme de découverte de nouveaux talents. Et au cours des deux dernières années, aucune des commandes qu'on m'a faites n'était dépourvue d'une composante Instagram. Et donc, on demande aux photographes de publier régulièrement au cours du projet des photographies pour que le spectateur puisse vous suivre sur le terrain et a l'impression de faire l'expérience du reportage jusqu'au moment de la publication du produit fini.
Qu'est-ce que vous pensez du format carré et qu'est-ce que ça implique quand on est photographe et qu'on prend une photo avec ce format ?
Honestly, I didn't shoot square pictures much before, except I had a medium format camera.
Alors, pour être honnête, avant, je n'utilisais pas le format carré. C'est vraiment l'application photo sur mon téléphone qui a fait que j'ai commencé à utiliser ce format qui est vraiment dans l'esprit d'Instagram, donc un format carré immédiat en utilisant un appareil mobile. Et c'est vraiment l'application qui a dicté le format de mes photos. Mais aujourd'hui, je pense que je suis devenue un photographe carré. C'est le format dans lequel je me sens le plus confortable. Et souvent, quand je compare mes photos carrées avec des photos en format 35 mm, eh bien souvent, je trouve que celles qui sont carrées sont meilleures. Et j'ai même commencé à acheter des appareils photo qui font des photographies carrées également. Et Instagram, vous savez peut-être qu'il y a une nouvelle application qui est comparable à Snapchat pour les vidéos, mais par contre qui est en format vertical. Et donc mes collègues et d'autres photographes ou vidéastes qui postent sur cette application sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils changent la façon dont ils filment, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur cette plateforme. Et c'est vrai que jusqu'à un certain point, ça change la façon dont on compose et qu'on met en scène nos photos.
Comment avez-vous vécu la première fois l'interaction avec la communauté ? Est-ce que vous avez aussi des interactions avec la communauté de Corée du Nord ? Et comment ça se passe avec eux ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Donc concernant les interactions avec les spectateurs de mes photographies, donc au moment où j'étais en Corée du Nord et que je postais mes photos, j'avais des contacts de gens qui les voyaient et qui me posaient énormément de questions, qui étaient très curieux, qui également montraient à quel point on a peu d'informations sur ce pays dans le contenu de leurs commentaires. Et donc j'ai passé énormément de temps quand j'étais en Corée du Nord et que je n'avais pas grand-chose à faire, si ce n'est être dans ma chambre d'hôtel à regarder la télévision d'État, que de répondre à ces personnes et vraiment engager la conversation, me demander si c'était un pays réel, authentique, quelles étaient mes conditions de travail. Et donc ça a été une discussion extrêmement interactive et sur la base de mes photos, mais également des échanges, des discussions qui m'ont permis, en étant en Corée du Nord, d'essayer de rétablir un peu la vérité sur ce pays. Quant au contact avec des Nord-Coréens, alors s'ils ont les mêmes outils de communication que nous, ordinateurs, téléphones portables, etc., ils n'ont pas de possibilité de contacter qui que ce soit en dehors de leur pays. Donc il n'y a aucun contact avec le monde extérieur et pour moi, il est impossible de les contacter quand je ne suis pas en Corée du Nord. Alors ils utilisent les mêmes outils, mais qui sont vraiment restreints au pays et donc ils sont en ce sens complètement isolés. Et donc toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des Nord-Coréens sur quelques sujets que ce soit, et tout particulièrement les réseaux sociaux, ce sont des conversations que j'ai eues en direct avec eux sur place.
Vous les utilisez assez peu, mais dans quelle mesure l'utilisation des filtres sur Instagram est légitime pour la photo de presse ? Et est-ce qu'on ne risque pas justement d'esthétiser les situations ? Quand on utilise des filtres, alors je sais que vous les utilisez presque pas, mais du coup, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus.
Well, I think photography is always changing, and the rules are always changing.
La photographie change, les règles changent. Et sur Instagram, il y a des millions d'utilisateurs, et je pense que les utilisateurs sont plus ouverts à ces visions différentes de la photographie, avec des filtres, des retouches, etc. Moi, je suis photojournaliste, photographe de documentaires, et donc j'applique les mêmes normes, les mêmes exigences pour les photos que je publie sur Instagram et celles qui sont publiées dans des magazines ou dans des journaux, et je pense que la plupart de mes confrères en font de même. Il y a évidemment toujours des exceptions. Mais nous avons des règles dans notre profession, et la règle numéro un, c'est d'être vrai, de montrer ce que l'on a vu et ce que l'on a vécu.
Au niveau de la question de la propriété, du copyright sur ces photos, comment ça se passe, par exemple ? Moi, si demain, si j'écris un article sur vous, est-ce que je peux utiliser une de vos photos Instagram ?
I think that the The industry standards are evolving.
Nous avons des normes dans notre industrie qui changent aujourd'hui, mais je pense que si l'on regarde les conditions générales, en général, le photographe est considéré comme le détenteur de sa photo et les magazines ou les sites internet qui souhaitent utiliser cette photo souvent contactent directement le photographe pour lui demander l'autorisation de reproduction d'utilisation ou bien ils mettent le lien vers le compte Instagram dans l'article ou en cliquant sur la photo, on est directement renvoyé sur le compte Instagram du photographe. Donc c'est devenu un peu la procédure acceptée par tout ça. Il est vrai qu'au début, beaucoup de photographes étaient inquiets. Ils avaient l'impression que s'ils mettaient une photo sur Internet, ils en perdaient complètement le contrôle. Mais aujourd'hui, je pense que ces inquiétudes ont plus ou moins disparu parce que on s'est rendu compte que le système était bien géré et les photographes voient également qu'il y a plus de bénéfices à retirer de cette présence en ligne que de désavantages. Dans mon cas, j'utilisais Instagram et les photos que je faisais avec mon appareil photo comme un corpus parallèle de travail à celui de mon travail publié dans les magazines. Et donc, l'objectif était différent. La valeur de ces photographies était différente. L'objectif était d'attirer l'attention sur moi, sur mon travail, sur les histoires que j'étais en train de photographier. Et donc, la valeur des photographies n'était pas une valeur financière ou celle des magazines, mais plutôt d'attirer l'attention sur mes projets.
Pour retrouver le travail du photographe David Gutenfelder, allez sur Instagram et suivez le compte des Gutenfelder. Toutes les références, tous les liens et les noms mentionnés dans cette émission ont été tweetés ou sont sur atelier.rfi.fr. La semaine prochaine, on attaque un cycle de 2 semaines sur la transformation des groupes de presse et nous commencerons avec Le Monde et Le Temps. D'ici là, n'hésitez pas à continuer d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les retours de la semaine dernière. L'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI, merci d'être à notre écoute.
Tous les cinémas du monde.